Bienvenue au Folisécu, épisode spécial PME. Je suis accompagné de René Sylvain. Comment vas-tu?
Je vais bien, et toi?
Très bien aussi. On est rendu au troisième chapitre de ton livre, qui est Construire, qui est dans le fond, après avoir s'être connu, savoir un peu, s'être éduqué un peu, donc d'avoir une connaissance minimale et essentielle à fonctionner. Maintenant, on va construire. Donc, on va commencer à déployer des moyens et des structures pour justement protéger adéquatement au bon niveau les informations. Donc, je vais te laisser en parler.
Donc, construire a été un chapitre qui a été un beau défi à construire. Je me suis retrouvé en tant qu'architecte à écrire trop pour ce qu'il y en était. Fait que je me suis fait un petit peu remettre à ma place par mon éditeur, mais c'était hyper plaisant. C'est là où on commence vraiment à regarder comment faire la planification pour la mise en place des cyberdéfenses. Et on voit rapidement qu'on tombe dans les vraies choses. Je vais commencer par le point d'architecture dont on s'était parlé l'année passée, à Sécu. Moi, je suis maintenant un fervent croyant de moins c'est mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que surtout en PME, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 fournisseurs pour vos technologies. Moins de fournisseurs, mieux maîtrisés. La profondeur de la maîtrise est beaucoup plus importante que le nombre de technologies que vous avez. Si vous fiez à Gartner pour 50 choses différentes à faire dans votre compagnie, vous risquez d'avoir 50 produits différents. Moi, je ne vais pas là. Je suis vraiment en plus dans ce qu'ils appellent le meilleur de la plateforme, best of platform versus best of breed. Donc, premier point, je veux asseoir 100 partants. Après ça, quand on parle de planification, quand on parle de plan de cybersécurité, pour moi, ça commence par où est-ce qu'elle va être votre centrale d'alarme? Qui va faire l'analyse des événements qui rentrent? Et où est-ce que tout ce que vous allez connecter dans l'environnement va envoyer ces informations? Donc, vous avez déjà des systèmes, vous avez peut-être déjà sur Azure, vous avez peut-être déjà des serveurs, vous avez peut-être déjà un système d'authentification. Donc, toutes ces choses-là existantes doivent envoyer leurs données de sécurité à quelque part, doivent être intégrées dans un engin de sécurité. Je donne comme exemple le SIEM, le Security Information Event Management, qui vient faire la corrélation là-dedans, puis qui, en cas de brèche, vient donner le pouls sur ce qui se passe. Ben, je dis toujours qu'il faut construire ça en premier parce que c'est votre centre de surveillance. C'est là où vous allez être en mesure de surveiller votre environnement et avoir de la visibilité. Après ça, les meilleures pratiques, le MFA, venir connecter le système d'authentification, venir connecter les journaux, être en mesure de tracer ce qui se passe. Donc, s'il y a un courriel qui arrive qui est malveillant, il devrait être arrêté à l'entrée. S'il n'est pas arrêté, comment est-ce qu'il va être arrêté au niveau de l'appareil? D'être en mesure d'avoir cette visibilité-là. Et surtout, chose qui n'est pas regardée très souvent, c'est où est-ce que les données sortent? Parce que, je vais donner un exemple. J'ai été appelé un jeudi matin par un bureau qui s'occupait de brevets. Donc, eux, c'était un bureau de brevets. Et ils m'indiquent qu'ils ont eu un ransomware le vendredi passé et qu'ils faisaient affaire avec un MSP, donc quelqu'un qui gérait leur service, l'infogérance. Ils les ont appelés, ils ont dit pas de problème, lundi matin, tout va être revenu comme avant, comme si tu n'aurais pas perdu une journée de travail. Comme de fait, le lundi matin, tous les systèmes sont restaurés, tout va bien. Le mercredi, la Sûreté du Québec appelle le propriétaire et dit en passant, vos données sont sur le dark web, Logbit a mis un compteur et s'attend à avoir un paiement. Et là, il m'appelle pour me dire, René Sylvain, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je l'ai référé à mon avocate préférée en cyber, parce que c'était plus une question de technologie. La question technologique en prévention aurait dû être posée avant, mais le fournisseur de services n'avait jamais vu que les données avaient été extraites vers le dark web. Donc, il y avait un manque de filtre. Ce n'était pas un manque de technologie, c'était un manque d'attention, encore une fois, mais aussi de connaissances spécifiques en cybersécurité. Donc, fin de la parenthèse là-dessus, mais l'idée surtout, c'est que vos systèmes sont gérés, vos systèmes sont pris en charge, c'est parfait. Ça ne fait pas d'eux des experts en cyber. Des fois, ça vaut la peine de lever un petit peu le hood puis de regarder ce qui se passe vraiment en dessous d'un point de vue cybersécurité. Avec le chapitre construire, ça vous donne cette vue-là.
Ben, notamment, justement, de surveiller. Puis ça, c'est très important sur le fait de notamment les employés. Puis bon, tu parlais d'un MSSP, d'infogérance dans ce contexte-là. D'en choisir un qui est capable de nous accompagner. Puis c'est pour ça que les étapes précédentes sont importantes, de savoir qui on est, de connaître, d'avoir un minimum d'informations. Donc, quand on est arrivé à construire, bien, on est capable de poser les bonnes questions à des partenaires d'affaires qui vont nous aider à cheminer. Puis c'est souvent ça pour une PME. On n'est pas capable d'avoir nécessairement les ressources à l'interne. on a la connaissance, on a l'awareness, on a la conscience, la préoccupation par rapport à ça. Donc, nos gestes vont être orientés, mais des fois, on n'a pas la capacité ou même les moyens financiers de payer une ou plusieurs personnes pour faire ce travail-là. Donc, d'avoir les bonnes questions, parce que j'ai vu beaucoup de cas où les PME, notamment, vont sous-traiter à des compagnies qu'ils croient être acceptables, un peu comme dans ton exemple, mais ils ne le sont pas suffisamment parce que les bonnes questions n'ont pas été posées. Donc, les bons éléments, les bonnes préoccupations n'ont pas été mis sur la table avec le fournisseur. Puis, dans ce cas-là, peut-être que ce n'était pas le fournisseur adéquat pour cette compagnie-là de choisir un bon fournisseur qui convient à nos besoins, à nous, pour la sécurité.
Et je comprends très bien les PME d'être à risque en ce moment. On parle de 4 millions de positions ouvertes en cybersécurité à travers le monde. Donc, même moi, j'ai été victime de grandes entreprises qui sont venues chercher de mes ressources pour les amener dans leur champ d'expertise à eux. Je comprends très bien. Donc, une PME, soit qu'elle ne sera pas capable d'inviter ou d'intéresser un expert en cybersécurité, ou ils ne seront pas capable de le retenir. Donc, c'est vraiment de s'assurer, quand on fait affaire avec des tiers, d'avoir le bon langage, de savoir ce qu'on cherche et d'être en mesure aussi d'évaluer si oui ou non le lien fait du sens. Construire, pour moi, c'est mon chapitre préféré, hein, parce que je suis un architecte TI à la base. Donc, quand vient le temps de planifier comment les choses doivent être construites, planifier comment les choses doivent s'intégrer, c'est seconde nature. Mais à ça, on ajoute aussi, j'ai mis dedans beaucoup d'anecdotes. Par exemple, lors d'une réponse aux incidents, on n'avait pas accès aux journaux. Les journaux n'étaient pas maintenus centralement. Et il a fallu chercher pendant 2 jours pour trouver le courriel original par où l'attaque avait commencé 1 mois auparavant. Donc, on a perdu un temps énorme. On n'avait pas cette visibilité-là et on n'avait pas cette sensibilité-là. Parce que tout ce qu'on avait, c'était des oui-dire. Ah oui, un tel, à un moment donné, son ordi a fait quelques free games. On l'a fermé, on a roulé l'antivirus, tout avait de labo. Ben, malheureusement, l'antivirus puis l'EDR, c'est pas au même niveau. Ça parle pas le même langage, ça amène pas le même niveau de recherche. Donc, on se retrouve dans des situations où il y a des choses qui peuvent rester dormantes. Et si je reviens au client que je parlais dans le dernier épisode, où ce que ma firme de sondage, on a trouvé une petite affaire la première semaine. Puis après ça, ça a été, il y avait rien pendant 3 mois. Et là, un beau lundi matin, les alertes commencent à sonner un peu partout. On a trouvé un ransomware dans un fichier PST qui avait été connecté durant la fin de semaine. Il était dans le fin fond d'un dossier dormant depuis 4 ans. On s'entend que si vous n'avez pas la centrale d'alarme centralisée, que vous n'avez pas branché toutes vos sondes que vous avez un petit peu partout dans votre environnement dessus, c'est impossible pour vous de le voir ça. Donc, ce ransomware-là aurait pu être live, il aurait pu être vivant dans votre environnement, jusqu'à ce qu'il se fasse cliquer par quelqu'un. Puis ça, des fois, ça peut prendre des années. Mais l'idée, c'est qu'il est encore là, il est encore présent.
Oui, puis ça, c'est un aspect important, la lenteur des attaques. On le voit beaucoup dans les grosses attaques spectaculaires comme SolarWinds, par exemple, où le délai entre l'entrée et l'exécution est quand même passablement grand. Mais c'est en même temps un peu la démonstration, comme on a parlé dans un épisode précédent, que les attaquants sous-traitent leur travail. Donc, la phase initiale peut arriver, mais il n'y a pas personne qui a racheté l'information. Donc, la phase initiale va rester dormante jusqu'à temps que quelqu'un achète l'information, le bundle d'information, et là, va venir commencer à faire l'attaque, va déclencher l'attaque qui est dormante dans vos infrastructures. Donc, si elle n'a pas été détectée au départ, il est peu probable qu'elle soit détectée plus tard, puisque le fonctionnement des outils de sécurité, puis c'est un peu aussi le principe de la phase construire, c'est que ça fonctionne sur des événements, sur des signaux qu'on reçoit, et quand le logiciel malveillant est dormant, mais il n'y aura pas de signaux, il n'y aura pas de signes, donc on ne le voit pas. Puis au moment quand il va bouger, il a toute l'importance de savoir, d'avoir les signaux, c'est que quand il bouge, bien, de pouvoir le détecter quand il bouge, qu'il commence ses actions et qu'on puisse intervenir en temps opportun pour limiter les dommages. On vient toujours le plus qu'on peut. Tu parlais de détecteur de fumée, bien, c'est important parce que si ça sonne, on va être capable d'intervenir minimum pour réduire les dommages ou au pire d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent limiter l'étendue totale des dommages dans lesquels on a si on n'est pas capable de faire mieux nous-mêmes. Là.
Et dans certains cas, sauver des vies. Hein?
Oui, absolument.
Donc, mais tu as dit quelque chose de super important. Les signaux. Il n'y a pas juste des vrais signaux. Il y a beaucoup de faux positifs. Et ça, les signaux, on les raffine avec le temps. C'est là où ça demande une expertise qui est quand même assez intéressante et qui n'est pas rapidement disponible. Tu peux pas prendre un admin TI junior et lui dire « Tiens, arrange ça, puis toi, tu vas regarder la console. » Moi, je me souviens, en 2005, c'est pas d'hier, là, on avait créé une console centrale HP pour une firme de 100 personnes. Là. On recevait 4000 événements à l'heure. Donc, ça vous donne une idée. Et ça, c'était des événements TI. Ça n'était même pas des événements de cybersécurité. Donc, quand vous commencez à activer des sondes pour tout ce qui se passe dans Microsoft 365, tout ce qui se passe sur les appareils des gens, tout ce qui se passe dans le système d'identité, ça rentre à coup de centaines à la minute. Donc, faire le tri, voir ce qui est important, être en mesure de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai versus ce qui est faux, il faut vraiment venir s'assurer qu'on a une personne d'expérience et une personne qui est capable de voir, dans le fond, et d'évaluer. L'exemple que j'ai là-dessus, j'ai une très belle firme avec qui je travaille. C'est un partenaire Microsoft spécialisé Dynamics. Et on a été parmi les premiers à mettre un CASB chez eux. Donc, un logiciel de surveillance pour les applications cloud. Et à un certain moment donné, j'ai été obligé d'aller voir un employé avec son patron, de l'amener dans une salle, dire « Est-ce que je peux savoir si tu as fait quelque chose de particulier sur Facebook ce week-end? » Puis là, il me dit « Non, pourquoi? » C'est parce que selon les systèmes, habituellement, tu transfères environ 100 MB de données à Facebook le week-end. Tu as fait 3,8 GB de transfert vers Facebook ce week-end. Fait que si tu nous dis que tu as uploadé ton vidéo de mariage avec tout ton album de photos de mariage, OK, peut-être. Mais sinon, ça veut dire qu'il y a des données qui ont été exfiltrées de ton PC d'entreprise vers ton compte Facebook. Puis là, on a besoin de savoir pourquoi. Et là, la personne, je veux dire, les personnes sont toujours un peu surprises, mais comprennent assez rapidement que c'est pour protéger la propriété intellectuelle de la compagnie. Donc, on se retrouve vraiment dans des situations où ça prend du tact, mais on est capable de démontrer par A plus B qu'il y a un risque. Et à ce moment-là, les gens nous donnent leur laptop, disent « Regarde, trouve qu'est-ce qu'il y a, puis reviens me voir après. »
Mais ça fait un lien aussi avec le chapitre précédent où justement l'éducation doit se faire et plus l'éducation et la haute direction est sensibilisée à ça, plus ça va être facile de parler avec des gens dans l'entreprise parce que dans des entreprises moins ouvertes à ça, quand on arrive dans une situation similaire à celle-ci, ben on a beaucoup plus de difficultés d'avoir la collaboration de l'employé et donc de résoudre le problème le plus rapidement possible parce que on est dans un contexte de perçu de chasse aux sorcières quand dans le réel, on est juste on cherche le problème pour le résoudre et c'est pas l'accusation de l'employé parce que là, quand il comprend clairement et quand il comprend clairement aussi, ben il fera pas de Facebook sur son ordinateur de bureau aussi. Là. Ça, c'est normal, on serait pas supposé faire ça, mais bon, il y a certaines...
Ça dépend des politiques de l'entreprise.
Oui.
Mais en effet, j'ai écrit un article là-dessus il y a quelques mois qui disait et si votre ado causait une brèche chez votre employeur? T'sais? Parce que les ados sont d'excellents utilisateurs de technologie, mais habituellement ne sont pas très versés dans tout ce qui est cybersécurité et meilleures pratiques. Donc, des fois, ils vont télécharger des choses qui ne sont pas tout à fait legit. Ça aussi, on a vu quelques, surtout durant la pandémie, nous, on a vu quelques histoires d'horreur là-dessus. Pour terminer, moins c'est mieux. La majorité des technologies que vous avez besoin, ça rentre sur une page. J'ai fait un beau petit graphique dans le livre qui démontre c'est quoi les différents points de sécurité que vous voulez vérifier, comment les envoyer au complet tous dans votre centre de surveillance. Vous n'avez pas besoin de 60 technologies, vous n'avez pas non plus besoin de 60 vendors. Si vous êtes déjà sur Microsoft 365, il y a un paquet de ces technologies-là qui existent déjà. Sur Google, il y a des équivalents aussi. Donc, l'idée, c'est que votre plateforme cloud devrait être capable de vous fournir ce que vous avez besoin pour sécuriser vos informations.
Tout à fait. Puis moi, je conclure sur le fait qu'effectivement, dans les frameworks que j'utilise pour faire l'analyse de sécurité chez des clients, la maîtrise des outils est un critère important. Et si on en a trop, on n'a nécessairement pas la maîtrise efficace. Donc, ça ne nous sert à rien. Il vaut mieux avoir une maîtrise à 100% du peu d'outils qu'on a que d'avoir une maîtrise à 25% d'une panoplie d'outils qu'on arrive à rien en ce sens-là. Mais de toute façon, excellent. Merci. On va continuer avec le prochain chapitre dans le prochain épisode. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.